Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be Alive.
Je sais que si vous enchaînez les défaites, c'est pour ne pas faire de peine à Clémentine.
Écoutez les précédentes émissions.
Justement, je les ai écoutées.
Non,
mais tout c'est clair. Mais nos amis auditeurs et auditrices attendent ce duel avec impatience. Alors, jouons. On commence avec vous, Stéphane, comme d'habitude. De tout temps, l'homme a grimpé. Non, calmez-vous Stéphane, je voudrais vous proposer une question alpinisme. Dans le Vercors,
ça c'est une question pour Clémentine, elle est du Vercors.
Justement, je pense qu'elle va vous aider, comme d'habitude. Donc sept hommes, dont un aumônier, vont faire la première ascension du Mont Aiguille.
Oh là là, c'est chez moi, ça. C'est très exactement chez moi.
On estime...
1492, c'est la même année que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et ils sont montés avec des échelles.
C'est quoi votre question ?
Ouais, je vais la poser quand même. On estime que ce sont les débuts de l'alpinisme, car l'escalade met en œuvre des techniques spécialement conçues pour l'occasion. Mais c'était au 15e, au 16e ou au 17e siècle ?
C'était à la fin du 15e, en 1492.
Oh, ça vous vient d'où tout ça, Stéphane ? Ce savoir.
Une inspiration clémentinesque.
Oh, écoutez, on va vérifier quand même. Finalement, Émilie Dez.
Vous avez... perdu.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Non, vous avez gagné. C'était au 15e, en effet. Je pense qu'ils font une micro-sieste en régime. Non, c'est au 15e. Ça. Et plus précisément, vous ne le saviez pas, mais c'était en 1492.
Ah oui, c'est oui, ça. C'est étonnant, j'étais tellement précis dans ma réponse.
Grâce, ça vaudrait un petit demi-point en plus.
Alors,
non, mais vous n'en êtes pas là quand même.
Non, mais pour
Clémentine,
vous.
Clémentine. Ah. Une question pour Clémentine maintenant. C'est Mussolini pour l'Italie qui signe les accords de Latran avec le cardinal Gaspari, représentant le Saint-Siège. Cela donne naissance, de
1929.
Fait... 1929. En fait, ce qui est bien, c'est que vous connaissez les questions de l'autre. C'est ça. Donc, c'était en 1929 au Vatican. Voici ma question. On ne peut pas avoir une nationalité vaticane que l'on transmet de façon héréditaire. Vrai ou faux ?
La nationalité vaticane, ça n'existe pas. Ça voudrait dire qu'on est dans l'enceinte du Vatican, mais qui est aujourd'hui extrêmement réduite. Qu'est-ce qu'il y a des enfants dans cette enceinte ? Les gardes suisses, les fonctionnaires. Vous pensez qu'il y a des salles d'accouchement dans l'enceinte vaticane ?
Non. Vous êtes sûr ?
Ah oui, je vous vois dire. Quand je vous vois faire ce genre de grimace, ça veut dire qu'en fait, c'est oui. Non, vous êtes sûr. Non, moi, mon intuition, c'est non.
C'est non. On vérifie.
Vous avez perdu.
Ah, on peut transmettre là.
Bon, non. Ok, je vais faire sans la régie aujourd'hui. Vous avez gagné, oui, c'est... puisque la question c'était, on ne peut pas avoir la nationalité, vrai ou faux. Vous avez répondu faux, donc vous pensez que ça ne se transmet pas, vous aviez raison. L'État du Vatican n'a pas en son sein de personnes ayant la nationalité vaticane à proprement parler. On peut avoir un passeport de la cité du Vatican, mais il n'est plus valable quand on prend sa retraite. Et on ne peut rien transmettre de façon héréditaire. Un partout. À vous, Stéphane. Je ne sais pas si je vous l'ai assez dit, Stéphane, mais j'ai énormément de sympathie pour vous.
Ah, ça augure mal.
Non. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Vous connaissez le principe ?
Oui, on est en empathie avec son bourreau.
C'est ça. Alors là, des gens sont pris en otage, mais finalement, ils ont de la sympathie, parfois plus, pour les ravisseurs.
C'est une sorte de Demis Roussos.
De Demis Roussos.
Oui.
Bien plus tard.
Il a été, vous savez que Demis Roussos, il a été pris en otage.
Oui, par des terroristes.
Par des terroristes, et il était en sympathie avec eux.
Ça avait duré longtemps ?
Ah oui, ça l'avait marqué. Hein.
Vous avez perdu beaucoup de poils.
Alors, la question.
Le syndrome de Stockholm.
Oui.
Ce nom vient d'une vraie prise d'otage qui a eu lieu en août 1973 à Stockholm. Voici ma question. Dans cette fameuse prise d'otage, les deux ravisseurs ont même fait des enfants à deux otages une fois leur condamnation effectuée. Vrai ou faux ?
Ça serait super, je trouve.
C'est tellement fun. Enfin,
ça serait cocasse.
C'est exactement.
Je dirais oui.
Vous diriez oui ? Eh bien, on vérifie.
Vous avez gagné !
Oui.
Non, vous avez perdu.
Comment ça ?
Vous avez perdu. Ils sont complètement déboussolés. Ils sont déboussolés. Ils ont la tête à l'envers. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait
ils
hier
soir. Ils ont décidé
soir.
De vous faire marcher, j'ai l'impression.
Tout va bien, je suis imperturbable. C'est faux. Une rumeur a existé sur un mariage entre un ravisseur et une otage, mais l'information était ensuite démentie.
Stéphane.
L'un des deux malfrats a eu 6 enfants de 4 femmes différentes, mais elle ne faisait pas partie des personnes qui furent prises en otage. Clémentine, vous pouvez gagner ce jeu sur cette question. Clémentine, si je vous dis 69.
Année érotique.
Merci. Non, mais il se passe quelque chose entre nous. Mais comme moi, vous pensez aussi à l'année sortie de l'album Abbey Road. Album mythique des Beatles, oui. Avec une pochette ultra culte. Oui. Celle où on les voit traverser la rue à quatre sur le passage piéton. Voici ma question. L'album devait s'appeler Everest. Et la pochette devait les représenter sur le mont Everest. Et finalement, ça s'est fait à Abbey Road, avec une pochette où on les voyait juste traverser la rue. Vrai ou faux ?
Faux, c'est faux.
C'est faux ? On vérifie.
Vous avez gagné.
Vous avez compris, vous avez perdu. Hein ?
Ah bon ?
Pour les auditeurs qui prendraient le jeu, je vous rappelle que la régie n'est plus sous contrôle.
D'accord.
Il y a des dissidents. Seul Paul McCartney était partant pour faire ce voyage. Finalement, et donc ils ont fait la photo au coin de la rue, c'était pas plus mal.
Oui, enfin là, en effet, c'était beaucoup de bruit pour rien. Aller se trimballer à l'Everest pour une pochette de disque, alors qu'elle est très bien cette pochette.
Elle est magnifique. Une question pour vous départager.
Ah mais oui.
Écoutons un peu de jazz.
Ça ressemble au début de Take 5 un peu, non ?
Là, ça tombe bien, c'est le début de Take 5. Vous connaissez le compositeur ?
Dave Brubeck.
C'est Paul Desmond.
Oh.
À sa mort, à 52 ans, en 1977, il donne tous les droits de ce tube à qui ? Quatre propositions. Il donne les droits au chien de sa femme, à l'amant de sa femme, à sa femme ou à la Croix-Rouge.
À l'amant de sa femme.
L'amant de sa
femme. Je trouve que c'est s'il y a de plus subversif, de plus
rigolo. Bon, pour changer, je dirais au chien de sa femme.
Au chien de sa femme. Alors là, écoutez, je suis très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant puisque c'était la Croix-Rouge.
Oh,
ah bah oui,
là.
Mais
c'est pas fun.
Vous avez l'esprit tordu.
Oui, non, franchement, là.
Mais on vous connaît.
Oh non, mais donne-toi à la Croix-Rouge. Bah, ça, c'est un scoop. Hein.
L'organisation a touché plus de 6 millions de dollars car la musique a été reprise dans beaucoup de films. Et personnage généreux, il avait aussi un humour très caustique. Quand Paul Desmond a su qu'il allait mourir d'un cancer du poumon, il a déclaré à la presse être heureux de la santé de son foie. En tout cas, bravo, personne n'a gagné. Et ça m'arrange parce qu'en régie, ils n'auraient pas pu mettre le jingle.
Merci beaucoup Jean-Luc, merci Clémentine, à demain.